Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui avec Ghaleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France. Ghaleb Benchir, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous.
Merci à vous.
Edgar Morin a fait une petite réflexion ces temps-ci. Il a dit : je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté des femmes iraniennes qui veulent laisser tomber le voile. Je suis pour la liberté des femmes françaises qui veulent porter le voile. Ça vous inspire quoi ?
Être pour la liberté est une bonne chose, vraiment. On peut contraindre les corps, mais on ne peut jamais contraindre les cœurs. Et donc, c'est même un non-sens que de vouloir imposer à quiconque quelque chose contre sa conscience, contre son gré. C'est une atteinte grave à l'intégrité morale et surtout quand il s'agit aussi de l'atteinte à l'intégrité physique des personnes. La liberté est un bien précieux, cela fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Tout comme Edgar Morin, je suis pour que les femmes iraniennes ou ailleurs, sous d'autres climats, puissent librement disposer de leur corps et de la manière de le vêtir ou pas. Dans notre pays, il y a une petite note que j'ajouterai, c'est qu'il y a le droit, il y a les principes généraux, tout comme Edgar Morin quand il est pour la liberté, et j'ajoute ce que j'appelle la psychosociologie ou la psyché collective. Il se trouve que dans notre pays, là en France, la psychosociologie et la psyché collective, d'une manière générale, est réfractaire à cette idée que le voile puisse être un attribut librement utilisé comme un vêtement de pudeur. Alors ma position, je suis très attaché à la liberté et à la liberté de conscience, et je ne peux pas aller à l'encontre d'une femme qui, pour des raisons spirituelles, a envie de se voiler. Et j'ajoute aussitôt que, selon ma conception, ma compréhension, ma vision, mais les explications théologiques, ce n'est pas un fondement canonique. J'aime à rappeler que cette affaire du voile a été réglée une bonne fois pour toutes dans les années 60-70, partout dans le monde dit musulman, pour les lycéennes et les étudiantes qui allaient au lycée et à l'université. On en est revenu dans un revoilement avec la déferlante
iranienne, avec la révolution iranienne.
La conjonction entre la révolution iranienne khoméniste, la déferlante wahhabo-salafiste et aussi la doctrine des frères musulmans, les trois réunis nous ont donné ce durcissement.
Alors beaucoup disent que c'est ce vêtement procède d'une sorte d'uniformisation des consciences, et on dit souvent c'est quasiment un uniforme.
Vous avez tout à fait raison, parce que à un moment donné, lorsque nous voyons les femmes qui, dans un geste de pudeur et de tradition, et encore, on ne le voyait pas chez les subsahariennes qui étaient jolies avec leurs boubous, ou les femmes musulmanes indiennes qui étaient jolies dans leurs saris, mais si on voit un peu en Afrique du Nord, il y a le haïk, il y a le mlaya, il y a la djellaba, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui uniformise de Jakarta à Dakar. Donc, vous avez raison, cher Nasser Khétan, de parler de cet uniforme qui est venu comme une vague dite de revoilement. Et donc, c'est pour ça que lorsque je reviens en France, je suis enclin à comprendre le débat qu'il y a autour de cet attribut vestimentaire.
Deuxième question à Ghaleb Benchir. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Et vous êtes en même temps membre du conseil des sages, d'un conseil laïque des sages que le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer a installé en 2018. Qu'est-ce qu'un président de l'islam, de la Fondation de l'Islam de France, fait dans un conseil laïque ?
D'abord, c'est un conseil des sages de la laïcité. J'ajoute généralement que lorsqu'un sage pense qu'il est sage, il ne l'est plus ipso facto. Et je siégeais dans ce conseil avant même d'être élu président de la Fondation de l'Islam de France. Et en plus, ici, la Fondation de l'Islam de France ne s'occupe pas des questions culturelles et religieuses. Elle s'occupe des questions éducatives, culturelles et sociales. Plus tard, quand on sera dans une période de vache grasse, on s'occupera des questions philanthropiques et humanitaires. Et donc cela va de pair, la prise en charge éducative, culturelle et sociale de la jeunesse, avec ce qui se passe notamment à l'éducation nationale, quand il y a des manquements au principe de laïcité, surtout auprès des élèves, voire dans certains cas auprès du personnel aussi. Et nous essayons, avec froideur d'esprit, si je puis dire avec sagesse, de résoudre les problèmes quand ils apparaissent.
Alors, première question, l'actualité a été émaillée de d'événements sanglants. Que ce soit l'attentat de Charlie Hebdo, le Bataclan, Samuel Paty, etc. Et on a à chaque fois, en tout cas, l'autorité politique qui dit les islamistes, l'islam radical, ces gens qui portent une civilisation qui n'est pas la nôtre, ils veulent venir nous empêcher de vivre. Pourquoi on ne traite pas ces gens simplement de terroristes, de délinquants, de vermine, et pourquoi on ne fait pas, pourquoi vouloir à chaque fois parler d'islam, pourquoi mélanger l'islam ou la civilisation musulmane ou les musulmans qui vivent normalement avec ces gens qui ne représentent en rien et qui ne sont en rien, qui ne concernent en rien l'islam. Pourquoi l'autorité politique a du mal à faire cette espèce de séparation qui ferait du bien à tout le monde?
Pour trois raisons, cher Nasser Kétan. La première, c'est que malheureusement, ces voyous, ces criminels, ces terroristes qui commettent des crimes abjects, eux-mêmes se disent musulmans,
c'est leur problème.
Eux-mêmes disent qu'ils sont islamistes.
C'est leur problème.
Ils commettent cela au nom de Dieu.
Mais c'est leur problème.
C'est leur problème et la difficulté...
C'est ni le problème des musulmans, ni le problème des républicains ou des citoyens ou des habitants d'un pays.
Le problème des musulmans devient ipso facto, c'est le deuxième point, c'est que les responsables, hiérarques, théologiens, penseurs et surtout imams et religieux musulmans, depuis 30 ans, là maintenant ils commencent à le faire, mais les débuts, je me rappelle que lorsque le GIA sévissait en Algérie, Boko Haram dans le nord Nigeria, la Jamaat Islamia en Égypte, les Chebab en Somalie, Abu Sayyaf sur l'île de Jolo, sans parler plus récemment de Daesh, quand ils commettaient des exactions abominables, on a vu que très peu de réactions sur le plan théologique pour dire que ce que vous faites n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons de l'humanisme, de la mansuétude, du pardon, de la réconciliation, de notre propre tradition. Vous la prenez en otage et nous vous dénions ce droit de la pervertir et de la vilir. Et le troisième point, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est leur problème. Il y a en France, pour une partie de l'opinion publique, un triomphe idéologique d'extrême droite qui a tendance à mettre dans le même sac uniment, indistinctement et presque l'ensemble des musulmans comme étant solidaires de ces exactions, alors que les musulmans eux-mêmes en pâtissent. Et c'est ça qu'il faut, dans la froideur d'esprit et dans l'intelligence de la lecture des temporalités, la temporalité de l'attentat n'est pas la temporalité de l'analyse, parce qu'au moment de l'attentat, on est sous l'émoi, sous l'épouvante, sous la sidération, la colère, l'indignation. Là, on condamne et on dénonce. Plus tard, comme il y a un temps pour tout, on est dans l'analyse, c'est ce que nous faisons maintenant. Et nous voyons que l'émotion aidant, certains ajoutent profite même, c'est pour ça que j'ai parlé de ce triomphe idéologique, pour condamner en quelque sorte l'ensemble des musulmans, à nos concitoyens musulmans, à nos compatriotes qui se trouvent de confession islamique, d'agir là aussi avec sagesse, non seulement de réprouver le répréhensible, et c'est aussi le problème des criminels, et ça ne les concerne pas directement, mais aussi d'être vigilant et d'être dans la vie patriotique, normale, républicaine, en s'acquittant de leurs devoirs, en jouissant de leurs droits, et surtout d'avoir les intellectuels et les communicants pour mettre fin à toutes ces confusions au niveau du vocabulaire. On entend islamo-gauchisme, islamo-identitaire, islamo-fascisme, islamo-nazisme, islamo-racaille, islamo-délinquance, islamo-banditisme, islamo-terrorisme. Trop, c'est trop, avec tous ces préfixes qui finalement renvoient à la notion de l'islam comme une religion d'épouvante, de terreur exclusivement. Et alors, c'est ce que nous essayons au niveau de la Fondation de l'Islam de France, d'inverser pour montrer qu'il y a un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme, de civilisation, de connaissance, de savoir, d'ouverture sur le monde. Et c'est ce que nous devons faire.
Alors, dans la mesure où le musulman est tout seul dans son rapport à Dieu, où il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'intermédiaire, pourquoi sans arrêt aller chercher une autorité morale ou une autorité religieuse? Et on voit que dans la pratique quotidienne, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, la personne de confession musulmane a besoin de l'imam du coin, a besoin du cheikh du coin. On se réfère à l'autorité de l'Azhar, on se réfère à l'autorité d'Alger ou d'Istanbul, etc. Pourquoi vouloir chercher une autorité morale alors que tout est dans le livre sacré, que la personne est toute seule avec sa foi, en rapport avec Dieu? Pourquoi ces histoires d'organisation et d'aller chercher une autorité morale? Pourquoi?
Alors vous avez raison là aussi de poser la bonne question. Dans le monde musulman et surtout l'obédience sunnite, il n'y a pas d'autorité centrale. Il n'y a pas de souverain pontife, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de structure cléricale. Chez les chiites, il y a un clergé, mais il est d'ordre académique, il n'est pas d'ordre sacerdotal, on en parlera plus tard si vous le souhaitez. Mais pour ce qui concerne l'obédience sunnite, cette absence d'autorité centrale est voulue comme une source de bonheur, comme une liberté. C'est dans l'intimité de la conscience de chaque croyant et de chaque croyante d'être en relation avec le divin. On n'a pas besoin du truchement d'un quelconque directeur de conscience, on n'a pas besoin de la médiation d'un intercesseur. C'est une liberté et c'est un bonheur. Mais il se trouve en même temps que c'est aussi une source de problèmes inextricables. Parce que lorsque vous avez des individus qui instrumentent ou instrumentalisent, qui manipulent, qui idéologisent, qui politisent, qui la religion pour d'autres fins que spirituelles, ce sont eux qu'on entendra, et aussi, comme dans la vie on a toujours plus radical que soi et plus ultra que soi, il y a une sorte de surenchère. Alors en réalité, on n'a pas besoin d'un organisme qui représente les musulmans, puisque les musulmans sont majeurs et ils ne peuvent être représentés que politiquement avec leurs élus. J'ai eu l'occasion de dire à ce sujet, il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif, sans se prévaloir de sa confession, parce qu'on est tout de même dans une république laïque, mais qu'on ait une instance qui, elle, gère le culte avec responsabilité, et qu'on ait des hommes et des femmes dans ces instances avec la probité, l'intégrité, l'exigence morale pour qu'on sorte de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, surtout dans un état laïque comme le nôtre. Dernier point, et vous avez raison, on n'a pas besoin d'aller demander à l'université Al-Azhar ou à son recteur ou à Alger ou à Istanbul ou à Jakarta de se mêler de la vie des musulmans français.
Merci, Hervé Bencher. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beur FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Grand témoin aujourd'hui avec Khaled Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. Alors, on a l'habitude de vous présenter comme un islamologue franco-algérien, un réformateur de l'islam libéral. Et vous avez été élu donc en décembre 2018 président de la Fondation de France. Vous êtes physicien. Vous avez étudié à l'université Pierre et Marie Curie et vous êtes issu d'une famille de soufis algériens. Et vous dites vous-même que le soufi constitue le cœur même de l'islam. Et vous êtes président de la branche française de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Et vous avez aussi été membre de la Fraternité d'Abraham, administrateur de démocratie et spiritualité, etc., etc. Donc c'est dire si vous êtes dans le dialogue, la concertation et le consensus. Votre père, l'Arhamo Abbas Ben Cheikh, était membre du GPRA pendant la révolution algérienne. Il représentait la révolution en Arabie Saoudite, à Jeddah, puis est devenu ambassadeur, ensuite recteur de la mosquée de Paris, de 82 à 89. Et donc vous avez été baigné très tôt dans cette ambiance de spiritualité. Qu'est-ce qui amène quelqu'un qui est destiné à devenir physicien à s'intéresser à l'islam et à devenir président de la Fondation de France?
C'est ce qu'on appelle une trajectoire de vie. C'est vrai, lorsque je rédigeais ma thèse de doctorat en sciences, je m'étais dit, je ne vais tout de même pas passer ma vie à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques. Un physicien ne fait pas que cela. Donc j'ai poursuivi en parallèle des études de philosophie à Paris 1. Et la vacance du terrain aidant, je n'ai pas des mérites personnels, je me suis intéressé effectivement à ce qu'on appelle l'islamologie. Étymologiquement, un islamologue, c'est celui qui essaye de discourir, de tenir un discours, une étude rationnelle, un discours intelligent sur le fait islamique. Et je trouve que dans notre pays, on a ramené la tradition religieuse islamique qui a sous-tendu une civilisation impériale avec l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol. On a ramené tout ça à une question de certificat de virginité, serrer la main, ne pas serrer la main, et ça c'est révoltant. Et donc si les musulmans eux-mêmes, musulmans et musulmanes, ne prennent pas la parole, ne prennent pas la peine d'étudier, d'acquérir le savoir et la connaissance, ne serait-ce que pour témoigner de cette tradition et de cette civilisation qui va de pair et que nous pouvons conjuguer avec l'héritage des Lumières en France et en Europe, ça serait quelque part pécher par l'inaction et devenir complice par l'inaction de ce qu'ils dénoncent par ailleurs. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné ou à un autre, je m'étais engagé dans ce champ d'études, de recherches et de prise de parole publique concernant l'islam et l'islamologie en France.
Alors, vous êtes un ardent défenseur de l'exégèse du Coran. Vous avez publié, entre autres, pas mal de livres, mais notamment La laïcité au regard du Coran en 2005, et en 2008, La lettre ouverte aux islamistes, et en 2018, tout récemment, Petit manuel pour un manuel à la mesure des hommes. Vous défendez, entre autres, beaucoup de choses, mais vous défendez et vous avez soutenu très tôt l'imamat des femmes. C'est-à-dire qu'une femme peut être imam autant qu'un homme.
Oui, en tout cas, à défaut de soutenir très tôt, j'ai simplement dit que je ne trouve pas dans les références premières que sont le Coran et notamment les hadiths, ce qui empêche une femme imam de conduire la prière. D'ailleurs, la question ne se pose pas en principe pour les femmes imams conduisant la prière pour des femmes. Maintenant, les femmes imams conduisant des prières dites mixtes, en tout cas, au moins je pose la question pour un débat ouvert entre théologiens, canonistes, jurisconsultes, quels sont les arguments qui militent contre l'imamat des femmes? Moi, je n'en trouve pas. C'est ça l'idée. Dans le respect absolu de l'égalité homme-femme, une égalité ontologique et une égalité juridique, je pose encore une fois la question.
Et dans votre livre, dans le dernier livre, notamment Petit manuel, à mesure des Petit manuel pour une compréhension de l'islam à la mesure des hommes, Vous dites qu'on peut très bien quitter une religion pour en rejoindre une autre.
Parce que je suis très...
Ça, c'est condamné par la plupart des docteurs de l'islam ou des imams.
Oui, oui, mais j'essaie d'être cohérent à double titre.
On peut être musulman et devenir chrétien, ou ne pas devenir athée, puis revenir, devenir juif, et vous pensez que ce n'est pas contraire à l'islam ?
En aucun cas et d'aucune manière. Et là, pour deux raisons. Je ne peux pas, d'un côté, militer ardemment pour la liberté de conscience, pour la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et à un moment donné ou à un autre, condamner ce qu'on appelle l'apostasie, le fait d'abjurer, de renier, de quitter sa propre religion. Je ne le vois pas dans le Coran, qui est toujours la référence première, et je ne le vois pas en dehors d'un hadith attribué au prophète de l'islam rapporté par Ibn Abbas qui avait 13 ans à la mort du prophète et qui dit je l'ai entendu bien avant, ce qui sous-entend qu'il devait avoir 11-12 ans avant et qui est si quelqu'un quitte sa religion, tuez-le. Je ne le pense pas et je ne pourrais pas accepter qu'on puisse attenter contre la vie de quelqu'un pour un délit de conscience et d'opinion. C'est une affaire entre l'homme et Dieu et ça n'est pas quelque chose qui doit être délégué aux hommes pour l'accomplir. C'est un point aveugle de la pensée théologique islamique et c'est aux imams de prendre à bras le corps ces questions et surtout aux penseurs et aux théologiens musulmans. Bientôt, dans le cadre de la Fondation de l'Islam de France, nous organiserons un colloque sur la liberté de conscience et on abordera cette question.
Alors, il y a une chose très importante, on oublie très souvent que dans le Coran et dans l'islam, il est dit que celui qui tue un homme tue toute l'humanité. On oublie qu'il y a le djihad, qu'il y a l'été djihad. On oublie qu'il y a les obligations rituelles, mais qu'en même temps, il est écrit « nulle contrainte en religion ». Donc, on y trouve un peu les choses contraires, entre guillemets. Et on y trouve surtout aussi, surtout entre autres, la sourate 109 sur les infidèles, qui est, pour beaucoup de personnes, la manifestation dans le Coran d'une possibilité de laïcité. Dans le Coran, le prophète dit vous pouvez avoir une religion, votre religion, j'ai la mienne, et chacun a sa religion, y compris vous ne pouvez ne pas avoir de religion, etc. Est-ce que la sourate 109, ça pourrait être l'expression de la laïcité dans le Coran ?
Si on cherche nécessairement et forcément ce qu'on appelle une référence scripturaire, donc un texte qui appuie la possibilité de séparer, d'asseoir la laïcité ou de séparer les deux ordres, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit, disons, pertinent. Dans un premier temps, on peut l'accepter. Et s'il y a lieu de le faire, il y a pléthore de versets coraniques et de sourates. J'implore votre indulgence, je prendrai 30 secondes ou une minute pour vous en citer quelques-uns. Vous-même avez cité le verset 256 de la sourate 2, « Nulle contrainte en la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur ». Mais il y a la sourate 29, sourate 18, verset 29, qui dit « La vérité émane de ton Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut ». Ou les versets 104 à 106 de la sourate 6 qui disent « Des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est clairvoyant les poursuit pour soi-même et celui qui est aveugle les contre soi. Nous ne t'avons pas désigné comme leur procurateur ». Ou encore le verset 54 de la sourate 5 qui dit « Oh, vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qui l'aimera et qui l'aimera ». Vous avez le verset 22 de la sourate 88 qui dit « Rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité contraignante » ou dans une autre traduction « Tu n'as sur eux aucun pouvoir despotique ». Et puis, bien entendu, la fameuse sourate 109 qui dit « Vous avez votre religion, j'ai la mienne, je n'adore pas ce que vous adorez, je ne suis pas adorateur, et vous n'êtes pas, moi je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore ». Bien entendu, si on a envie, si on a la volonté intellectuelle et théologique de puiser dans le Coran ce qui assoit les fondements de la liberté et de cette séparation, ben c'est possible. C'est pour ça que j'en appelle à ce travail de refondation de la pensée théologique.
Merci Alain Bouchard, on se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
De retour avec Khaled Bencher, grand témoin, président de la Fondation de l'Islam de France. Alors, c'est de l'Islam de France ou de l'Islam en France ?
Oui, il y a un problème de vocabulaire qu'il faut aplanir très vite. Le président de la République est revenu récemment sur cela en disant peut-être un islam en France. Moi, je n'ai pas de gêne à parler d'un islam de France. Il y a un islam qui universalise l'ensemble des musulmans, c'est vrai. Si on a un peu plus de temps, j'aurais passé en revue le hadith de Gabriel, hadith Jibril, qui nous enseigne en gros qu'est-ce que c'est que l'islam. Et ça, c'est l'ensemble des musulmans de par le monde qui y adhèrent. Simplement, lorsqu'on est en Indonésie, ou on est au Canada, ou on est à Zanzibar, ou on est en France, ou au Yémen, on ne vit pas son islamité de la même façon, parce qu'il y a le milieu culturel, il y a le contexte historique, et quand on est à Jakarta, ou à Montréal, ou à Zanzibar, ou à Paris, ou à Sanaa, on ne vit pas de la même façon. En France, et c'est ça l'idée de l'islam de France, c'est que les musulmans, les citoyens français de confession islamique, ou ceux qui sont résidents en France tout en étant musulmans, ben, obéissent à la loi commune, obéissent à la Constitution, la loi fondamentale, font en sorte que c'est le droit positif qui prime la législation religieuse. On peut avoir dans son cœur une relation à Dieu ou penser que Dieu a raison, mais publiquement et par rapport à la loi, au droit, ben c'est le droit positif. C'est ça, en gros, l'idée d'un islam de France.
Et je disais tout à l'heure, je rappelais que vous êtes le fils de Abbas Ben Cheikh, Cheikh Abbas, et qui a été recteur de la mosquée de Paris, notamment entre 1982 et 89. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'interviewer. Ça ne nous rajeunit pas. Et votre père nous disait que bon, on peut l'islam autorise l'enseignement de toutes les langues, on peut prier dans toutes les langues, et c'est pas parce qu'on ne prie pas en arabe qu'on se rapproche plus du message de Dieu. Et vous avez des gens qui disent non, il faut lire le Coran en arabe, parce que la façon, si vous le lisez en arabe ou si vous priez en arabe, vous vous rapprochez plus du message de Dieu. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ?
Une anecdote et la réponse. L'anecdote, c'est qu'on a une brave dame du nom de Maimouna qui ne savait ni lire ni écrire. On l'a vue un jour en train de prier, et puis un pauvre type est venu, soi-disant, lui montrer comment il faut prier, parce qu'elle ne savait pas, en lui disant que ta prière n'est pas agréée par Dieu puisque tu n'as pas respecté et tu n'as pas su lire le Coran comme il faut dans ta prière. Et elle a eu une réponse extraordinaire, cette Maimouna, je la dis en arabe et je la traduis, Maimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Maimouna. C'est-à-dire que Maimouna connaît son Dieu, ou connaît Dieu, et Dieu connaît Maimouna. Donc toi, tu n'as pas à te mêler de ça. Bien entendu, je suis allé à Sarajevo, à un moment où peut-être on ne pouvait pas aller à Sarajevo, et je suis allé à la mosquée de Sarajevo, et j'ai vu que le prêche et la prière était en serbo-croate. Je connaissais l'office, mais je n'ai pas compris grand-chose. Ça ne veut pas dire que ces musulmans ne priaient pas. Donc le canal, le support linguistique, la langue véhiculaire, n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, si on peut pénétrer le texte arabe, le texte coranique, parce qu'on maîtrise la langue, c'est bien, mais si on n'a pas, ce n'est pas une exigence, au contraire. Sinon, cette religion ne se veut pas universelle. Donc, Cheikh Abbas ou quelqu'un d'autre était dans leur rôle de l'expliquer. Disons que, un, La langue arabe, indépendamment des questions confessionnelles, est une belle langue et elle mérite d'être enseignée et étudiée. Ici, en plus, on peut lire le Coran parce qu'il y a des assonances, il y a de la beauté, etc. C'est très bien, mais pour ce qui concerne les questions rituelles, liturgiques, de prière, etc., on a la possibilité de prier dans sa langue. C'est ce que font les musulmans en Malaisie, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, en Iran.
Et aussi en Afrique du Nord.
Ou en Afrique du Nord.
Où les berbères du Rif marocain prient en berbère en
Vous avez tout à fait raison.
Ou les Kabyles en Algérie prient en Kabyle, ou les Chaouis, ou les Mozabites.
Exactement.
Donc, j'ai parlé un peu de ça, parce que c'est vrai que la langue arabe est une très belle langue, est une langue de civilisation. Mais il y a aussi une tendance un peu des autorités en France, on revient un peu en France, à considérer que tous les enfants, disons, d'origine musulmane, etc., sont tous des Arabes et parlent l'arabe à la maison. C'est alors qu'à la maison, on peut parler le kurde, si on est turc, on peut parler le kabyle, on peut parler le... Donc pourquoi prendre des enfants de ces pays-là, on vient de ces pays, et leur dire, voilà, il faut vous apprendre l'arabe. Donc, il y a deux choses différentes. Enseigner l'arabe, oui, parce que je crois que ce serait une vraie avancée, un vrai progrès de le faire. Mais pourquoi ne pas considérer la diversité des cultures d'origine, des populations, qui viennent de pays différents, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Turquie, d'Indonésie, du Sri Lanka ou du Pakistan, et que les gens pourraient aussi étudier leur langue d'origine, et pas seulement l'arabe.
Vous avez tout à fait raison, il faut distinguer deux choses et ne pas les mélanger. Un, l'enseignement de la langue arabe doit être une opportunité et une possibilité pour l'ensemble des futurs citoyens. À l'école, on n'est pas encore citoyen, mais leur
comme
donner...
Comme l'anglais, l'espagnol ou autre.
Parce que c'est une langue de civilisation et surtout une langue de travail à l'ONU. On a 6 langues de travail à l'ONU que sont le chinois, le russe, l'espagnol, l'anglais, le français et l'arabe. Et ne nous devons pas, en principe, en tout cas l'éducation nationale, n'a pas à atrophier ou mutiler la possibilité pour des futurs citoyens à maîtriser une langue de diplomatie, sans parler donc d'une belle langue lyrique, suggestive, et qui a été une langue véhiculaire du savoir, du cérémonial des cours, du droit, de la connaissance. Maintenant, pour ce qui concerne ce que vous avez appelé les différentes cultures, il n'y a aucune raison, au contraire. D'abord, la langue nationale en français est le français, mais dans les foyers familiaux, si on a envie d'abord de parler italien, allemand, on a le droit, et heureusement, et on peut aussi parler turc ou kurde, on peut parler ourdou, on peut parler persan, on peut parler arabe ou arabe vernaculaire ou kabyle ou toute autre langue, et il n'y a aucune raison de mettre l'ensemble des enfants supposés ou réels comme musulmans dans un même moule pour aller apprendre la langue arabe. Il faut que ça soit une adhésion et un sentiment de maîtriser une langue qui ouvre un imaginaire et surtout sur un plan civilisationnel et diplomatique.
Raleigh Bencher, l'actualité donc est émaillée de on l'a dit, des événements, d'attentats, de terrorisme, avec l'aurore des horreurs avec Samuel Paty. Et donc, il se pose le problème, encore une fois, de réorganiser l'islam de France. Et il est question de former des imams, il est question de rompre avec l'islam consulaire, et il est question donc de remettre en place une traçabilité des financements. Là-dessus, est-ce que vous, à la Fondation, quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes consulté là-dessus? Et quel est votre apport?
Alors, sur ces 3 points, vous ne trouverez aucune déviance, et sans dogmatisme aucun, sur mes propos et nos propos à la Fondation de l'Islam de France. Nous nous sommes égosillés à dire à propos de l'islam consulaire, ou qu'on l'appelle ainsi, que c'est une atteinte grave à la souveraineté de l'État français. Nous ne pouvons pas accepter que des régimes autocratiques, d'ailleurs, se mêlent de nos affaires via quelques imams, mais le plus souvent via la barbouzerie. Ce n'est pas sérieux. Et encore, on a des canaux qui ne sont pas acceptables, qui, d'individus qui ne maîtrisent pas les questions théologiques, religieuses, spirituelles. Le deuxième point, c'est l'organisation et la formation d'un corps d'imams. Nous, à la Fondation de l'Islam de France, et c'est notre rôle, c'est même le cœur du métier, c'est que nous offrons la possibilité par des bourses à des acteurs religieux, imams, prédicateurs, aumôniers, psalmodieurs, de compléter leur formation cultuelle par une formation civique, républicaine, laïque, où ils maîtrisent le droit des cultes, ils maîtrisent la culture ambiante, le fonctionnement des institutions, l'héritage historique français, parce que ce sont des thérapeutes de l'âme, ils prennent en charge sur le plan spirituel toute une jeunesse, et il faut qu'ils parlent le même langage que cette jeunesse, tout en étant imprégnés de l'univers culturel, intellectuel, politique, du pays qui est le leur. C'est la France. Donc, c'est pour ça que nous les aidons et nous leur donnons ces bourses. Et nous aimons, nous œuvrons, nous désirons, et c'est notre volonté d'avoir des imams à l'esprit éclairé, maîtrisant la langue française et intelligent, et plus tard, quelques-uns vont siéger sous la coupole comme des académiciens.
Est-ce que c'est une bonne idée de pérenniser ces imams et de faire des imams pendant 40 ans, pendant 30-40 ans? Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement? Est-ce qu'il ne faut pas précariser, en tout cas les mettre un peu en danger, peut-être leur faire un mandat de 2 fois 5 ans et puis les renouveler? Parce que est-ce que c'est une bonne chose d'installer les imams dans une espèce de pouvoir? On connaît quand même la duplicité des religieux, mais quelle que soit d'ailleurs la religion, que ce soit dans le judaïsme, dans le catholicisme ou ailleurs, on connaît le double langage, on connaît la duplicité, les rapports à la République ne sont pas toujours très clairs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je pense, une soupape qui permettrait de les renouveler et non pas de les installer de façon définitive dans un corpus, dans un corporatisme qui serait imam à vie?
En tout cas, d'un point de vue purement canonique, religieux, théologique et cultuel, l'imamat peut être que pour un temps, comme elle peut être à vie. C'est possible. Si l'homme, l'imam...
D'ailleurs, dans nos traditions, l'imam, il était imam que le vendredi. On prenait quelqu'un du coin, il régulait un petit peu la vie de la société, et on le prenait d'ailleurs, c'était un pharmacien, un boucher, un berger, et puis après il repartait à ses occupations. C'était ça dans la tradition musulmane.
Parce que l'imamat est une vocation avant d'être une profession. C'est d'abord une vocation. Il se trouve que la modernité aidant, etc., et puis il faut assurer la vie, la subsistance des imams. On a trois grades. On a l'imam ordinaire qui conduit la prière quotidienne, le quintuple rendez-vous quotidien, les cinq prières par jour. On a l'imam qui monte en chair, qui monte sur le minbar le vendredi, et on a les imams conférenciers. Là encore une fois, si l'imam est intègre, probe, compétent, sérieux, à la limite, personnellement, je ne vois pas pourquoi on ne lui ferait pas confiance et on le laisserait passer un bon moment et former d'autres imams qui viendraient par la suite. Et si on voit qu'il y a ce que vous avez appelé un double jeu ou un double discours, c'est à la mosquée qui l'emploie, ou à l'association, ou à un organisme qui, finalement, comme on l'aurait dans un ordre quelconque, comme l'ordre des médecins ou des pharmaciens ou des avocats, pour des raisons disciplinaires, d'y mettre fin. L'important, c'est que ce corps des imams doit être formé ou constitué d'imams compétents, sérieux et surtout intègres et honnêtes.
Raleigh Benchère, merci d'être venu dans les grands témoins. Vous êtes le président de la Fondation de l'Islam de France. C'est un vrai plaisir que de vous recevoir et on se fera encore plaisir en vous recevant de nouveau très bientôt.
Merci à vous, je reviendrai avec joie. Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.